Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Près de 81 000 gilets jaunes mobilisés, 43 interpellations dont 26 aux Champs-Élysées à Paris. Ce sont les derniers relevés du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui prétend que les casseurs des champs sont des séditieux de l'ultra-droite qui auraient répondu à l'appel de Marine Le Pen. Reportage dans un instant de Sarah Maquet à Paris. Nous serons en ligne également de Bruxelles après d'ultimes pourparlers positifs sur le contentieux Gibraltar, précision de Quentin Dickinson. Et puis les défilés contre les violences sexistes et sexuelles pour l'élimination des violences faites aux femmes. Mayouen Bordron a suivi un cortège parisien où il fut aussi question de transmission pour rompre avec l'ancestrale domination masculine. En Syrie, 24 combattants des forces kurdo-arabes chargés de reprendre à l'organisation État islamique une zone frontalière avec l'Irak sont tombés dans une embuscade que leur ont tendue des effectifs de Daesh à la faveur d'un épais brouillard. Ces djihadistes, dont se moquait avec emphase Raed Fares, un pacifiste au grand talent, détracteur inspiré des suppôts du régime syrien comme des leaders des puissances occidentales, Raed Fares est mort. Son portrait avec à Beyrouth, Aurélien Colli.
La révolution est une idée et les armes ne peuvent pas tuer les idées. Tels étaient les mots de Raed Fares, militant charismatique des premières heures du soulèvement civil, dont les banderoles sarcastiques écrites en anglais et déployées dans sa ville natale avaient fait le tour de la Syrie et du monde via les réseaux sociaux. Ce n'est pas une guerre civile, c'est un génocide. Laissez-nous mourir, mais pas mentir. Ou bien encore, joyeux Noël de Syrie, la terre où Assad a tué le Père Noël. C'est très triste, c'était quelqu'un de merveilleux. C'est douloureux car il avait fait beaucoup, explique Saad, un activiste contacté par Internet. On a le sentiment qu'on a perdu beaucoup de gens qui ont construit cette révolution. C'est une grande perte pour ceux qui se préoccupent encore de l'avenir de la Syrie, renchérit ce trentenaire. Dans ses vidéos mises en ligne, sur les ondes de sa radio communautaire qui émettait dans la province d'Idlib, Raed Fares témoignait de l'horreur de la guerre, prévenait les habitants des raids aériens imminents, rendait compte de la situation sur le terrain. S'il rapportait aussi les crimes de guerre du régime, il dénonçait également l'obscurantisme des islamistes qui dominent aujourd'hui la province d'Idlib. Harcelé, arrêté à plusieurs reprises par ces derniers, Raed Fares avait toujours refusé de quitter la Syrie, malgré des menaces de mort qu'il connaissait.
Save the Syrians who are still alive.
Aurélien Colli à Beyrouth. Le ministre malien de la Défense confirme ce matin une information livrée hier par son homologue française. Le chef djihadiste Amadou Koufa, idéologue et propagandiste, a été tué lors d'une opération menée dans la nuit de jeudi à vendredi par la force Barkhane dans le centre du Mali. Nouvel appel à la grève lancée ce samedi par la puissante centrale syndicale tunisienne UGTT. Grève dans le secteur public le 17 janvier prochain pour une revalorisation des salaires. 650 000 fonctionnaires ont cessé le travail avant-hier. Londres, Madrid et Bruxelles ont donc levé l'hypothèque Gibraltar, dernière ornière en date avant le sommet extraordinaire censé entériner demain matin les bases d'un accord sur le Brexit. Hier soir encore, le Premier ministre espagnol se montrait inflexible jusqu'à menacer d'user de son droit de veto et de ne pas paraffer ce Brexit dit soft. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous.
Quentin, que sait-on de ces ultimes discussions sur Gibraltar ?
Eh bien, pour nous résumer, Madrid l'annonce, Londres confirme et Bruxelles respire. La guerre de Gibraltar n'aura pas lieu et le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UE pourra se tenir comme prévu demain matin. Mais à dire vrai, personne ici n'a vraiment compris pourquoi, au tout dernier moment, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a cru discerner un péril imminent pour son pays, au point de brandir la menace d'un veto, par lui, des deux textes du Brexit. Veto d'ailleurs juridiquement imaginaire, étant donné que les décisions du Conseil européen se prennent généralement par consensus. Toujours est-il que voilà M. Sanchez rassuré. L'Espagne se voit confirmer un droit de regard, dont de toute façon elle disposait déjà, sur toute implication pour Gibraltar de la future négociation portant sur les relations entre le Royaume-Uni et l'UE post-Brexit.
Quentin, que va-t-il se passer maintenant, demain matin ?
Eh bien, la suite des opérations, au-delà en ce moment des visiteurs du soir chez Jean-Claude Juncker et chez Donald Tusk, en l'occurrence Theresa May et Giovanni Conte, c'est l'ouverture du Conseil européen demain matin à 9h30. Ce sommet, pour extraordinaire qu'il soit, ne devrait guère durer au-delà de la mi-journée, puisqu'il s'agit uniquement de constater l'accord des politiques sur l'accord des négociateurs. L'étape suivante reste hautement problématique, quant à elle, c'est le débat et le vote de la Chambre des communes vers le 10 décembre. On ne voit pas ce soir comment les deux textes pourraient s'y trouver une majorité, Mais le Brexit nous ayant habitués à l'imprévu, doublé de l'impensable, on ne sait jamais. Enfin, et pour autant que les textes survivent aux communes, l'étape ultime, c'est le débat et le vote en janvier au Parlement européen, qui ne sera pas non plus gagné d'avance.
Merci à vous, Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles. Sous la pression de Pékin, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen renonce à ses fonctions à la tête du Parti démocrate progressiste, laminé aux élections municipales. Elle dénonce par là même les brimades politiques et autres diffusions de fausses informations orchestrées par la Chine. L'Ukraine a commémoré les 85 ans de la grande famine stalinienne surnommée Holodomor. Des millions d'Ukrainiens affamés par le petit père des peuples entre 1932 et 1933. Hashtag nous tout un an après hashtag MeToo à la veille d'une journée internationale en vue de l'élimination des violences faites aux femmes, des défilés par dizaines de milliers en France contre les violences sexistes et sexuelles et intergénérationnelles. Il est en effet inconcevable de rompre avec ces rapports de domination masculine sans alerter, sans éduquer les plus jeunes d'entre nous. C'est un reportage dans le cortège parisien de Maïwenn Bordron.
Félicia, 21 ans, tient la pancarte violette contre tous les manifestants où c'est écrit « Ras le viol ». Elle a l'impression que la nouvelle génération se mobilise plus qu'avant.
Ça tient compte des cercles et des gens que je fréquente et on est toutes un peu entre nous et on a l'impression qu'on est toutes féministes, même s'il y a beaucoup de désaccords entre nous. Donc moi j'ai l'impression que ma génération, on est pas mal, mais j'ai peur aussi de penser que tout le monde pense comme moi. Il y a encore du boulot à faire, mais j'ai l'impression qu'on est bien. Et quand je suis un peu énervée, je me dis, ma génération, on va changer les choses et on va agir.
Un peu plus loin, Emma, 20 ans, elle arbore un foulard violet noué autour du front. Elle dénonce notamment le harcèlement de rue.
C'est malheureusement devenu banal. Si on est toutes là aujourd'hui, c'est pour qu'on dise stop. Et pour les générations futures aussi, que ça ne devienne pas malheureusement une habitude. Enfin, faut que ça change et... C'est important.
À ses côtés, Kaina, elle a déjà été suivie dans la rue ou insultée parce qu'elle ne répondait pas à des avances. Cette étudiante de 19 ans est plus déterminée que jamais pour faire bouger les choses.
C'est mon avenir qui joue et j'ai pas envie de vivre dans un monde où je suis obligée de mettre des couches pour sortir et de me sentir coupable si je mets une robe ou de mal à l'aise parce que je serais obligée de faire attention au regard des autres. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre à l'heure actuelle.
Parmi les manifestants, la relève est déjà présente. Antoine est venu avec sa fille de 6 ans et demi. C'était important pour lui de participer avec elle à la marche.
Toutes les revendications, tous les slogans, j'allais dire, je ne les traduis pas, une petite fille de 6 ans et demi, mais elle est parfaitement capable de comprendre ça et surtout de ne pas intérioriser que c'est normal, de ne pas intérioriser la normalité des phénomènes de domination. Voilà, alors évidemment, domination sexiste avant tout, mais pas que. Voilà.
Antoine est également venu avec sa mère de 83 ans, une ancienne militante du MLF, le mouvement de libération des femmes, preuve que le témoin a été transmis entre les générations.
Maïwenn Bordron. Il y a 2 ans, jour pour jour, paraissait Révolution, livre-programme du candidat à la présidence de la République Emmanuel Macron, météorite survolant les partis, brillant stratège pour les uns, mal élu pour les autres. 24 novembre 2018, un mouvement à bonne distance des partis se dresse contre l'injustice sociale, les Gilets jaunes. À leur 8e jour de mobilisation, barrages et blocages dans les régions et manifestations parisiennes tendues et violentes près des Champs-Élysées. Là, sur les Champs-Élysées, à la mi-journée, Sarah Maquet, l'atmosphère s'est alourdie.
Ils sont arrivés ce matin de toute la France, les Gilets jaunes, par petits groupes. Beaucoup sont d'abord passés par le Champ de Mars ou la place de la Bastille avant de converger vers un même lieu, comme Patrick, parisien de 63 ans.
Sur les Champs-Élysées, contre tout, la vie chère, hein, toutes les taxes, etc. Il faut que Macron démissionne parce qu'il va mettre la France à feu à sang, ça continue. Hein, quand même.
Et si c'est bien ce slogan qui est le plus scandé par la foule, certains ont plutôt des idées à soumettre au gouvernement. Proposition de JP, agent territorial de Bourgogne.
Et que les taxes soient variables en fonction de la baisse ou de l'augmentation du pétrole, ça serait un truc tout à fait simple à faire. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça.
On enlève la CSG, on baisse le carburant de 10 centimes d'euros et gelé sur une période de 3 ans minimum.
Midi, sur les Champs-Élysées, la fumée des gaz lacrymogènes remonte l'avenue. Les projectiles fusent, les panneaux d'un chantier sont érigés en barricade improvisée. Moment de flottement pour ce retraité venu du département de l'Aisne.
Ouais, ben on se retrouve devant avec que des gens qui sont habitués à ce genre de choses. Ils ont les masques, ils ont les casques, ils ont les gants. Voilà, c'est, les gilets jaunes sont derrière, quoi, mais devant, c'est les mauvais. Quoi.
Cyril, 24 ans, lui, arrivé de Savoie à 6h du matin, reste là, les yeux rougis par la fatigue et la fumée.
Comment voulez-vous qu'on fasse ? J'ai plein d'exemples dans ma famille qui m'ont poussé à venir aujourd'hui. Et pour moi, si l'aboutissement, en gros, les gilets jaunes, c'est un peu une excuse pour camoufler le ras-le-bol fiscal, moi, c'est ça.
Et en ce moment même, les Champs-Élysées sont toujours envahis de fumée. 26 personnes ont été interpellées.
Sarah Maquet. Le temps de demain, en quelques mots. Maussade du sud-ouest à la Champagne avec de la pluie parfois assez soutenue des Pays de la Loire au centre en début de matinée. Puis de l'Aquitaine à l'Occitanie. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto à la technique à Allemande Sarri.